où elle va pouvoir marcher dans ces lieux où elle dira embaumée par les vertus de Saint François et Sainte Claire. Et mais aussi ce qui va être très beau, c'est que Thérèse, elle a, à cause de son âme si délicate, elle aimerait qu'on puisse la rassurer pour lui dire que les fragilités liées à notre nature blessée par le péché originel ne déplaisent pas au bon Dieu, que c'est des fragilités, on les constate et elles nous rendent plus humbles. Mais il lui fallait quelqu'un qui le lui dise de la part de Dieu. Et en fait, elle a trouvé ce quelqu'un. Elle, ce quelqu'un, c'est un père franciscain qui s'appelle le père Alexis Proux. C'était celui qui faisait des conférences dans les prisons. Mais il n'était pas spécialement préparé pour aller chez des carmélites. Mais voilà, le prêtre qui devait prêcher à la dernière minute n'a pas pu. Et providentiellement, Dieu a envoyé ce père franciscain. Et voilà ce qu'écrit Thérèse. « J'avais des peines intérieures de toutes sortes. » Elle est sur le commencement de son chemin. Les peines intérieures, elles sont beaucoup liées à sa maladie des scrupules. Elle en est guérie, mais il en reste quelque chose, une hypersensibilité, qui est le piège du démon, qui veut qu'on se regarde au lieu de regarder vers le père de l'enfant prodigue, vers le bon berger. J'avais alors des peines intérieures de toutes sortes que je me sentais incapable d'exprimer. Et voilà que mon âme se dilata parfaitement. Je fus comprise d'une façon merveilleuse et même devinée. Le Père me lança à pleine voile sur les flots de la confiance et de l'amour qui m'attiraient si fort, mais sur lesquels je n'osais avancer. Il me dit que mes fautes ne faisaient pas de peine au bon Dieu. En ce moment, ajouta-t-il, je tiens sa place auprès de vous. Eh bien, je vous affirme de sa part qu'il est très content de votre âme. Oh, que je fus heureuse en écoutant ces consolantes paroles. Jamais je n'avais entendu dire que les fautes pouvaient ne pas faire de peine au bon Dieu. Cette assurance me combla de joie. Elle me fit supporter patiemment l'exil de la vie. Et quelques semaines avant sa mort, Thérèse en disait sa reconnaissance, des larmes aux yeux, dans un entretien avec sa sœur aînée, devenue son abbesse, sa prieure, Mère Agnès de Jésus, en lui disant « Aucun prêtre ne lui avait fait autant de bien que ce fils du petit pauvre. » Voilà. Il y a d'autres... Alors, je veux encore montrer comment l'âme franciscaine est capable de comprendre la grâce du Carmel. C'est Pierre d'Alcantara, c'est bien des siècles avant Thérèse. Pierre d'Alcantara, c'est un fils de Saint François, qui va rencontrer plusieurs fois Thérèse d'Avila. Il va la rencontrer au moment où on ne fait plus confiance à cette folle de Thérèse qui a des extases, des visions, des paroles, qui est mystique parce que c'est trop grave et ses confesseurs s'affolent. Et alors, on sollicite Pierre d'Alcantara d'aller la rencontrer. Et Thérèse d'Avila, pas la petite Thérèse d'Avila, elle ouvre grand son cœur. Elle est devinée, comme la petite Thérèse. Et Pierre d'Alcantara va prendre sa défense. J'ai pas le temps de vous le lire, mais dans le document que je vous enverrai, je vous le mettrai, tellement c'est important de se rendre compte comment, au moment où l'Inquisition était sur le point de détruire la réforme du Carmel, la providence de Dieu envoie un humble frère franciscain qui a une telle influence sur les évêques, sur les dominicains, sur les théologiens, qu'il va littéralement à plusieurs reprises l'aider. Et voilà que Thérèse lui écrit une dernière fois en lui disant « Père Pierre, il y a de nouveau eu, l'enfer s'est déchaîné et l'œuvre va quand même être détruite. » Il était mourant, il est mort 4 jours après, il était mourant. Il a demandé à ses frères qu'ils puissent quand même aller chez Thérèse. Il est arrivé chez elle, il était exténué, mais seulement pour lui redire ce que Dieu vous a demandé de faire vient de Dieu. Vous ne lâchez pas, vous continuez, ça vient de Dieu. Et lui-même, le certifiant, et il est mort 4 jours après, et elle écrira dans la vie écrite par elle-même au chapitre 27, qui il est, et elle va jusqu'à dire, attendez voir, il lui est apparu après sa mort. Donc elle dit, je l'ai vu souvent au sein d'une gloire immense. La première fois qu'il m'a apparu, il me dit, ô bienheureuse pénitence qui m'a valu une telle récompense. Et un an avant sa mort, il m'était apparu, malgré la distance qui nous séparait. Je sus qu'il devait mourir bientôt et je lui écrivis pour l'en prévenir. Et je continue. Le Seigneur me dit un jour, écoutez bien, parce que moi je le fais depuis. Le Seigneur me dit un jour qu'on ne lui demanderait jamais rien au nom de ce fidèle serviteur qu'il ne l'accorda. Pour moi, je l'ai chargé de présenter plusieurs fois mes suppliques à Dieu et je les ai toujours vues exaucées. Que le Seigneur en soit à jamais béni, ainsi soit-il. Elle écrit ça, bon, les pages que moi j'ai photocopiées, c'est page 286 de Thérèse de Jésus, la vie écrite par elle-même au chapitre 27. J'en viens au Père Marie-Joseph qui dit le 26 juillet 89, il est mort en 93, le 27 juillet. Donc, on est 4 ans avant sa mort. Et il dit, c'est des notes que j'ai prises. J'ai pensé à la grande Thérèse et à Saint-Pierre d'Alcantara. Et j'y ai trouvé un appui. Alors que Thérèse était critiquée et rejetée, mais Saint-Pierre d'Alcantara l'a sauvé. Et il ajoute, jamais Pierre d'Alcantara n'aura eu l'idée de lui dire, mais Thérèse, laisse tomber, tu vois, tu es trop critiquée, viens dans ma famille spirituelle. Mais non, ce sont des liens voulus par Dieu dans l'Église. L'Église est essentiellement communion, interdépendance des différents membres. Et il y a providentiellement, selon le dessein du Saint-Esprit, une communion, une interdépendance de grâce dans le corps mystique. Et ça n'est pas rien, c'est de l'Esprit-Saint. Je dis encore quelques paroles. Vous voyez, je ne vous ai encore rien donné du Père Marie-Joseph dans son enseignement. Mais ce n'est pas grave parce que je pourrais vous l'envoyer. Mais je pense qu'il faut le fonder, il faut qu'on le comprenne. Évidemment, m'a échappé ce que je voulais vous dire. Voilà. Donc, ça fait rien. Je vais vous donner. Voilà, ça m'a échappé. je reviens à Père Marie-Joseph est ordonné prêtre le 19 mars 1932. Quatre jours après, il célèbre sa première messe dans sa paroisse. Et avant de célébrer sa première messe, on est en 32. Je vous rappelle les dates pour Thérèse.
Il est par terre.
Ah oui, merci beaucoup. Je vous rappelle les dates de Thérèse. Elle est 32, ça fait 7 ans qu'elle est canonisée. Mais il vit tellement avec elle, il a tellement assimilé son enseignement qu'avant d'aller célébrer, il s'agenouille au lit de sa maman. Quand sa maman est morte, elle a réuni tous ses enfants et elle a dit, elle les a tous bénis, elle avait 46 ans. Elle les a tous bénis et elle a demandé à garder au pied de son lit juste son Père Marie-Joseph et Rosalie. C'était des enfants, 10 et 14 ans. Et il dit au Père Marie, elle dit au Père Marie-Joseph, si un jour tu dois devenir prêtre, elle avait deviné la vocation, deviens un saint prêtre ou ne le deviens pas. Et donc, avant de célébrer sa première messe, il s'est agenouillé au lit où sa maman lui a dit cette parole. Et il a demandé une grâce. Il a demandé à sa maman, il a demandé à la petite Thérèse, la grâce qu'il puisse vivre ce qu'elle-même a demandé. Qu'est-ce qu'elle avait demandé ? Thérèse avait demandé à être comme un grain de sable, foulé aux pieds par les passants, ignoré de tous et connu de Dieu seul. Thérèse est morte à 24 ans, hein, donc il faut quand même qu'on comprenne le géant de sainteté qu'est cet enfant, qu'est cette jeune. C'est un géant. François est mort à 42 ans, un autre géant de sainteté, et les deux ont... Thérèse, ses stigmates, c'est ce qu'elle n'en a pas extérieurement. C'est l'ouragan de gloire qui nous le dit, que ce sont... Les stigmates, ça veut dire l'identification à Jésus, la conformation à Jésus. François a eu les stigmates parce qu'il fallait que... il était le fondateur d'une famille spirituelle. Dieu agit avec chacun selon la mission et la vocation qu'il a. Ah oui, j'ai retrouvé, je reviendrai à la maman, vous me le rappellerez, j'ai retrouvé. Le Père Marie-Joseph nous faisait lire dans l'Imitation de Jésus-Christ ce passage où il est dit que Dieu n'aime pas qu'on compare les saints entre eux parce qu'ils sont tous l'œuvre de l'Esprit-Saint et qu'ils ont tous une place spécifique pour révéler quelque chose de l'infinie grandeur, beauté, bonté de Dieu. Et qu'il faut donc tous les saints pour que chacun reflète un aspect de la bonté de Dieu. Et voilà pourquoi, pour le Père Marie-Joseph, il ne lui venait même pas l'idée, il conjuguait François et Thérèse, il ne lui venait pas l'idée de les comparer. Donc je reviens au pied du lit de sa maman. Il demande cette grâce et à la fin de sa vie, il dira « Si j'avais su, je ne sais pas si j'aurais eu le courage de faire cette prière. » Je vous partage que c'est une confidence, la confidence, parce que Père Marie-Joseph ne faisait pas de confidence. Mais cette fois-là, il m'avait demandé de lui rendre des services pour lui préparer tel document. Il était fatigué, c'était la fin de sa vie. Et il fait comme ça, « Ah, si j'avais su !» Et je lui dis, « Père, si vous aviez su quoi ?» Et j'ai senti qu'il ne fallait pas que je demande plus et que je ne bouge pas. Et c'est là qu'il a dit cette prière qu'il a faite. Et il a dit, si j'avais su combien j'allais être exaucée, je ne suis pas sûre que j'aurais eu le courage de faire cette prière. Ah, pour avoir été comme un grain de sable. Un grain de sable, c'est pas brillant. C'est pas une pépite d'or. Ah, pour avoir été un grain de sable, foulé aux pieds et oublié par les passants, je l'ai été au-delà de toute mesure. Mais si, Thérèse avait dit, ignorer des hommes, mais connu de Dieu seul. Et il a ajouté, ignorer des hommes, je l'ai été. Mais si au moins j'avais la certitude que je suis connue de Dieu. Et qu'est-ce qui le sauvait dans cette nuit de la foi? C'était encore Thérèse. Je chante ce que je veux croire. Et il reprenait Thérèse et il continuait de lire Thérèse et il refaisait l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux. En 86, il est mort en 92, donc 7 ans avant sa mort, il a fait un AVC. Et on a tous pensé qu'il allait partir. Et dans ce entre-deux où on ne savait pas, à quoi il nous invitait, il nous demandait, tous ceux qui pouvions l'approcher, de dire à ceux qui étaient prêts, c'est-à-dire pour lui être prêt, ça voulait dire qu'ils acceptent leur pauvreté, de se préparer à vivre l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux de Jésus. Et la première fois qu'il a pu se lever après cet AVC, c'est pour venir devant le tabernacle et inviter ceux qui étaient là à faire avec lui l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux. Donc s'offrir à quoi? S'offrir à l'amour. Simplement ça, quand Thérèse dans l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux dit, je vous lis juste ce passage, quand elle dit de lui enlever la liberté de lui déplaire. Voilà, je voudrais vous consoler de l'ingratitude des méchants. Je vous supplie de m'ôter la liberté de vous déplaire. Et elle ajoute, et si par faiblesse je tombe quelquefois, qu'aussitôt votre divin regard purifie mon âme, consumant toutes mes imperfections, comme le feu qui transforme toutes choses en lui-même. Et puis sa grande prière. Je vous la relis parce que c'est le jour ou jamais. On va être près des reliques de Thérèse. Et il ne faut pas lui demander moins. Il ne faut pas lui demander des petites choses. Il faut lui demander ce pourquoi elle a eu la mission. Afin de vivre dans un acte de parfait amour. Pas des actes d'amour. Thérèse, elle n'est plus à des actes d'amour. Elle voudrait que sa vie ne soit plus qu'un seul acte. C'est-à-dire de l'amour. Afin de vivre dans un acte de parfait amour, je m'offre. Mais Thérèse ne s'enlèvera plus. C'est-à-dire, c'est une offrande de l'enfant. Elle sait que le bon Dieu va l'accepter. Et elle sait qu'elle n'a pas envie de reprendre. Et elle sait que quoi qu'il arrive, le bon Dieu l'a prévu et que donc, elle n'a pas à craindre. Je m'offre comme victime d'Holocauste. Alors, l'Holocauste, ça veut dire passer par le feu. À quoi elle s'offre? À votre amour miséricordieux. À l'amour. L'amour miséricordieux, il est incarné par le père de l'enfant prodigue. Il voit son fils, il court vers lui. Il est sale, il sent mauvais, il est en guenille. Le père se jette à son cou et l'embrasse. Afin de vivre dans un acte de parfait amour, je m'offre comme victime d'Holocauste. L'Holocauste, c'est la part de Jésus. Elle ne peut pas mettre le feu. à votre amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme quoi ? Les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en vous. Mais Jésus n'est qu'amour. Il n'est qu'amour. On trouve rien d'autre en Jésus. Thérèse dit, même votre justice, je l'aime. Parce que pour être juste, il faut que vous connaissiez les circonstances atténuantes. Donc vous allez encore être miséricordieux avec moi, puisque j'ai tout le temps des circonstances atténuantes. Ma bonne volonté ne me manque pas. Et qu'ainsi, je devienne, elle qui voulait être martyre, martyre de votre amour. Ô mon Dieu, que ce martyre, après m'avoir préparé à quoi ? À paraître devant vous, me fasse mourir. Donc, ce n'est pas la tuberculose qui a fait mourir Thérèse.
Un peu quand même.
Non, c'était juste le moyen par lequel Dieu a fini de la préparer. Et que mon âme s'élance sans retard, parce que Thérèse ne voulait pas de purgatoire. Elle ne pouvait pas avoir de purgatoire, puisque l'Holocauste allait enlever toutes les imperfections. Et que je m'élance sans retard dans l'éternel embrassement de votre miséricordieux amour. Et elle va encore plus loin. Je veux, ô mon bien-aimé, à chaque battement de mon cœur, vous renouveler cette offrande un nombre infini de fois, jusqu'à ce que les ombres s'étant évanouies, je puisse vous redire mon amour dans un face-à-face éternel. Alors, Père Marie-Joseph, voyez, tout franciscain qu'il était, nous faisait prier cette prière comme dernier acte quand il a pensé qu'il allait mourir en 86. Le 6 février, il a fait l'AVC, donc dans les jours suivants, il nous a demandé de faire l'acte d'offrande. Alors, je veux encore vous dire ça. Le 20 avril 90, donc 3 ans avant sa mort, il a donné les raisons pour lesquelles il avait cette photo que je vais vous donner. Il raconte, « J'ai écrit à Céline qui vivait encore à Lisieux. » Pas en 90, il a écrit. Hein. Il a écrit En tout cas, il donne cette photo qu'il a gardée pendant des années sur lui. Il va donner cette photo à sa sœur Rosalie en lui écrivant « À ma chère petite sœur, ma Rézel tant aimée, en signe et gage d'amour fraternel toujours plus vif, profond et calme, en Jésus notre Seigneur et la Vierge Maman, ton petit frère Aloïse, c'était son nom de baptême. » Et non, il dit, j'ai écrit à Céline, qui vivait encore à Lisieux, de prier Thérèse, parce qu'elles avaient de si bons parents, et je demandais à Thérèse de m'obtenir de travailler pour qu'avec la grâce de Dieu, beaucoup de jeunes foyers trouvent Jésus. Voilà la raison de cette image, pour les jeunes foyers, pour les foyers, pour les familles. Ah oui, j'ai aussi oublié de vous dire, vous savez, pourquoi ce curé, quand il est venu, quand il était au noviciat, c'est qu'il est tombé sur cette phrase de Thérèse. Au ciel, une multitude d'âmes m'appelleront maman. Ça a été un éblouissement. Mais oui, ta vocation, c'est d'être prêtre. Et tu enfanteras d'autres âmes autrement. Au ciel, une multitude d'âmes t'appelleront, enfin, ont appelé Thérèse. Oh, j'ai même pas commencé. Je vois bien Louis regarder l'heure.
Non.
Si, si.
Non.
Alors, je veux encore vous montrer quelque chose. Vous voyez, le Père Louis n'aurait pas été là. Vous voyez bien que je l'avais préparé. Je ne sais plus en quelle année, on avait célébré, je ne sais plus ce qu'on avait célébré non plus, mais on avait été à Notre-Dame de Vie pour présenter, je ne sais plus plus à quelle occasion, c'était un anniversaire du Père Marie-Eugène. Et on a regardé dans les écrits du Père Marie-Joseph comment on pouvait faire le petit tract que nous, on voulait faire de notre côté. Et on a simplement mis Thérèse, François, le Père Marie-Joseph, le Père Marie-Eugène, mais c'est surtout les paroles. La communion des charismes, c'est une citation de Saint Jean-Paul II, la communion des charismes, c'est le chemin d'une spiritualité de communion. C'est tellement fort, il faut qu'on continue d'en vivre, de vivre de la communion des charismes, donc qu'on se nourrisse de la petite Thérèse. Tout à l'heure, vous prendrez, si vous le voulez, les deux feuillets. Et donc, j'en viens maintenant à vous donner quelques... Qui est-ce qui est chargé de surveiller l'heure? On prend encore un petit quart d'heure, si vous voulez bien, parce que je ne vous ai pas donné beaucoup du Père. Alors, je prends dans un enseignement qu'il a donné à la fin de sa vie, parce que c'est important de voir ce fil d'or qui n'a fait que grandir. Je suis ici le 15 novembre 92. C'est son dernier novembre. Il meurt en juillet 93. Il va dire « Jésus vous regarde et vous aime ». Et il vous dit ces paroles, « Viens et suis-moi ». Et pour les réaliser, il vous a appelé à la suite de Saint François. Tous les saints sont des entraîneurs, évidemment, mais il y a quand même des différences. Il y a des saints qui ont leur spécificité. Et parmi les grands entraîneurs donnés par le ciel, François est un des plus prestigieux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit par ses représentants, les papes. Et ils nous le disent en montrant qui est François. Quand on pense au pape François qui a eu l'audace de prendre le nom de François et le pape Léon XIV qui a attendu le 9 janvier se terminait l'année extraordinaire, l'année ordinaire du jubilé de la miséricorde, de l'espérance pour ouvrir le lendemain l'année spéciale de Saint François en accordant les mêmes indulgences et en disant ce qui a été puisé pendant l'année de l'espérance, il faut que ça se transforme en sainteté maintenant. Il continue. Le cardinal Danils a écrit « Pour moi, après Joseph et Marie, personne n'a aimé Jésus comme François. Je n'oserais pas le dire. Et pourquoi ? À cause de la petite Thérèse. » Et il ajoute, qui d'ailleurs est en bonne partie une âme franciscaine par sa maman, et elle sera déclarée docteur de l'Église. On est en 92, et elle est déclarée docteur de l'Église en, je vous l'ai dit tout à l'heure, 97. Écoutez bien, et qu'est-ce que c'est un docteur de l'Église ? Pose Père Marie-Joseph dans le... C'est quelqu'un qui a reçu mission d'entraîner par son enseignement les âmes dans le sillage de Dieu, de Jésus. Alors voyez, François. Et Thérèse est l'écho de François. Je ne pense pas me tromper. Elle a reçu cet esprit par l'Esprit Saint, mais aussi par sa maman. Entre Saint François et la petite Thérèse, il n'y a qu'une différence de surface, d'apparence extérieure. Les deux sont animés du même esprit de simplicité et d'amour. Et quand il donne son testament, je suis toujours encore à la fin de sa vie, il va dire que il va comparer. Il va comparer la petite Thérèse qui pourra dire que ses parents sont plus dignes du ciel que de la terre, alors que François, il a eu à mener un lourd combat pour pouvoir vivre sa vocation, puisque son père l'avait
chassé.
Oui. Je continue encore. À Alors, il écrit pas à sa sœur, il écrit à une consacrée. On est en pleine guerre, 21 novembre 40. Il lui écrit: priez donc, soyez humble, aimez, priez. Et même et surtout quand vous n'avez plus envie de prier, obstinez-vous à garder confiance, à répéter, le cœur fût-il totalement aride, l'acte de confiance et d'amour. Et quoi qu'il arrive, toujours courage. N'oubliez pas Saint Joseph, Saint François, Thérèse. Comme livre, il faudra absolument vous assimiler Sainte Thérèse et Saint François. Absolument. Évitez de trop vous éparpiller. Approfondissez plutôt. Et naturellement, l'Évangile et l'imitation de Jésus-Christ. Encore. En 40, toujours encore en pleine guerre, mettez dans vos rapports avec Jésus la confiance la plus absolue. Sainte Thérèse dit: on obtient autant qu'on espère. Plus vous aurez de confiance, plus vous forcerez Jésus à vous combler de ses grâces. C'est par la confiance et la pratique des actes d'amour et des petits sacrifices qu'il faut prendre Jésus. Ensuite, toujours en 40, il dira: j'ai toujours tant insisté sur la petite voix de Thérèse. Vivez-la avec le sourire de l'enfant de Dieu. Voyez clairement la voie à suivre, le but à atteindre. Il faut y marcher résolument, doucement mais sans relâche. Et votre examen de conscience doit porter sur cela. Si vraiment, dans la journée, tout était orienté vers ce but, cette voie, aimer Jésus, lui offrir tout. Et si vous étiez plus ou moins distraite, si vous vous êtes recherchée, si vous avez agi par nature, si vous avez cherché à vous satisfaire vous-même au lieu de donner des joies à Jésus, donnez cela à Jésus et vous serez heureux. Alors, encore, mais il y a beaucoup de ces paroles que vous trouverez ce soir dans le livret. Il revient à Jésus appelle un petit enfant. Il dit comme c'est libérateur, parce que on a tant de soucis, des épreuves, et ce n'est qu'avec cet esprit qu'on peut continuer son bout de chemin. Nous sommes vraiment avec Saint François et avec Sainte Thérèse, qui est comme l'écho de François, et j'ose le dire, elle nous a été donnée pour notre temps d'aujourd'hui. C'est le temps de Thérèse et c'est le temps de François. Ou encore, en 93, le 2 juillet, je vous rappelle la date de sa mort, 27 juillet, donc le mois de sa mort, il dit: il faut être humble et petit. Vous voyez le grain de poussière insignifiant qu'on foule aux pieds, mais connu de Dieu seul. Il faut être humble et petit. Et là, je reprends encore une fois la parole de Jésus, rappelée à nouveau de force par Saint François et dans notre temps, surtout notre temps, par Sainte Thérèse. Et que vous le gardiez jusqu'au dernier soupir de votre vie, comme moi. Qui es-tu, ô mon Dieu? Qui suis-je, moi? La confiance et l'amour. Alors, il dit encore que, mes enfants, que le bon Dieu vous préserve. Dans mes oraisons, je dis souvent: qui es-tu, ô mon Dieu? Comme François. Mais tout de suite, la pensée de Thérèse, qui est si magnifique me revient. Le propre du génie, c'est de se pencher vers l'infiniment petit. Alors je dis au bon Dieu, c'est vrai, je ne suis rien. Toi, tu es un grand mystère, tu t'es révélé. Donc, tu es un mystère d'amour. C'est pour cela que j'ose avoir l'audace de confiance en toi, comme un petit enfant. Et avec Thérèse, j'ose murmurer, Papa, le bon Dieu. Vous voyez, je vais peut-être pas... Si je dois prendre encore 93, une dernière parole. Que nous obtenions ce qui fait le vrai chrétien. Et le vrai chrétien, à la manière de saint François, l'amour n'est pas aimé. Chaque saint a sa mission. J'aime beaucoup saint Dominique, notre évêque le sait. Notre évêque était présent à ce moment-là. Il était dominicain, Monseigneur Raffin. J'aime beaucoup saint Dominique, notre évêque le sait. Chacun a sa mission. Elles sont toujours complémentaires. François a une mission particulière, comme la petite Thérèse. Je dirais presque, j'ose dire, je pourrais le montrer, que ce n'est pas de l'imagination. La mission de Thérèse est comme un appel à une réactualisation de l'esprit de saint François par la petitesse et la pauvreté. Parce qu'elle a une mission, la petite Thérèse est une âme pour toute l'Église. Elle est tout autant franciscaine qu'elle est carmélite. Il voulait dire par là qu'il ne faut pas qu'on se laisse arrêter quand quelquefois on nous dit « Oui, mais vous, vous êtes franciscain, quoi. Il faut vivre de la grâce de saint François. » Et il veut nous dire par là « Non, c'est faux. Thérèse a une mission. » Donc ça, c'est janvier 93. Et pour ce qui est des enseignements, eh ben, je vous les donnerai... par écrit, puisque j'ai pas eu le temps de vous les lire. On va se réjouir avec la petite Thérèse. Je vais faire passer l'image, vous prenez, et si vous le voulez, c'est surtout pour avoir la communion des charismes, chemin d'une spiritualité de communion. Jean-Paul, c'est dans Novo Millennio in Unite, ce grand document qu'il a écrit à l'aube du troisième millénaire. En effet, se croiser. Mon père Louise, est-ce que j'ai pas trop empiété sur ce que vous allez dire? Non, hein? Ah, merci Seigneur.